I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Salut, c'est Thomas Roset. Tout au long de cette saison, parmi les grands thèmes qui nous ont occupés, on trouve en bonne place le travail. Et pour cause, cet élément plutôt central dans la vie de dizaines de millions de nos compatriotes, il est au cœur de bien des interrogations dans notre société. Entre la précarisation grandissante, la place de plus en plus importante que prend la dérégulation portée par quelques grandes plateformes du numérique, l'obsession du gouvernement actuel pour le modèle de la start-up, le détricotage des grands bastions du service public auquel se mélangent les aspirations nouvelles des générations qui arrivent sur le marché. Le terme de mutation sonne un peu comme un doux euphémisme. Et comme nous avons eu l'occasion de toucher du doigt toutes ces petites révolutions plus ou moins visibles à différentes reprises au cours de la saison écoulée, c'est donc bien autour du travail que va s'articuler notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Celui qui aujourd'hui sera notre interlocuteur pour balayer ces sujets et quelques autres, c'est Laurent Berger. Il est syndicaliste, secrétaire général de la CFDT depuis bientôt 7 ans, aux premières loges forcément de toutes ces évolutions parfois brutales, mais aussi de la représentation des salariés, car c'est un des premiers axes par lesquels nous nous sommes cette année intéressés au sujet du travail. La question de la pertinence du modèle syndical qui se pose plus que jamais, surtout après le mouvement des Gilets jaunes qui échappait totalement aux logiques de mobilisation pilotées par les grandes organisations telles qu'on les connaissait jusqu'ici. On en avait parlé dans un des tout premiers épisodes de Programme B avec le chercheur Rémi Bourguignon, spécialiste des relations sociales.
Ce qu'on voit aujourd'hui à travers les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire des gens qui disent « on ne va pas passer par les organisations syndicales, ça ne marche pas, ce n'est pas efficace ». Et donc aujourd'hui, effectivement, on voit des choses se structurer. Alors là, on est dans une période intéressante et un peu critique. Finalement, quelque part, le gouvernement reconnaît les Gilets jaunes, puisque il se met à se discuter avec. Donc on pourrait imaginer qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui finalement viennent prendre la place de ces vieux acteurs qui sont les syndicats. Un peu comme en politique, on a vu les mouvements vouloir se substituer aux partis politiques. Bon, si on poursuivait sur le politique, on voit que finalement ces mouvements ressemblent de plus en plus à des partis. Et qui finissent par rentrer dans le système institutionnel. Les Gilets jaunes sont en train de s'organiser avec des logiques de représentativité et probablement qu'ils vont finir par ressembler à des espèces d'organisations syndicales. Donc on est à un moment un peu critique. On peut imaginer qu'il y a un remplacement, une disparition des syndicats, mais en même temps, on voit bien que les syndicats aujourd'hui apparaissent, alors on va voir si ça prend ou pas, mais apparaissent comme une voie de recours.
Et donc, histoire de démarrer notre discussion sur de bonnes bases, j'ai demandé à Laurent Berger si le modèle syndical était en difficulté, voire carrément menacé d'extinction.
Il a toujours besoin de s'adapter. Je ne vois pas pourquoi le monde bougerait, le monde du travail bougerait, et le mode de représentation des travailleurs ne bougerait pas lui-même. Et d'ailleurs, on y travaille, j'y reviendrai. Mais la représentation des travailleurs, c'est aussi ce qu'en font le législateur, le gouvernement. Et là, avec une volonté de réduire les moyens des représentants des personnels dans les entreprises, je ne suis pas sûr qu'on a fait œuvre utile en termes de dialogue social. Ceci étant, nous, on est soumis à une transformation profonde du monde du travail, au moins sur trois axes. Le premier, c'est une attente des travailleurs à l'égard de leur travail qui a beaucoup bougé. Notre enquête qui s'appelait Parlons Travail a montré un attachement au travail, mais une quête de sens beaucoup plus affirmée, beaucoup plus forte qu'auparavant. Deuxième élément, c'est qu'il y a une précarisation. Il y a un monde du travail coupé en deux ou en trois, et il y a une précarisation accrue de nombre de salariés qui font bouger leurs attentes à l'égard du syndicalisme. Puis troisièmement, il y a le développement des formes de travail indépendants, mais dépendants économiquement. Ces fameux freelance indépendants qui sont aussi en situation de précarité, d'absence de droits. Et donc ça veut dire que le syndicalisme, il faut qu'il réponde à ces trois enjeux-là. Des salariés plus stables, mais qui ont envie d'être plus écoutés sur leur travail. Des salariés très précarisés qui voudraient un travail où ils soient mieux respectés et de longue durée. Et puis ces travailleurs indépendants qui parfois ont fait ce choix d'ailleurs du travail indépendant, mais ils sont quand même exploités par des plateformes ou par des donneurs d'ordre sans avoir aucun droit social. Donc si le syndicalisme ne s'adapte pas à ça, effectivement, il n'a pas beaucoup d'avenir.
Et justement, sur la dernière catégorie, on va dire, de travailleurs que vous avez cité, nous, c'est une catégorie à laquelle on s'est beaucoup intéressé cette année, parce qu'elle fait partie de notre univers, et en même temps, elle est très invisibilisée, c'est-à-dire qu'on en parle finalement assez peu de cette espèce de nouveau sous-prolétariat qu'on a recréé. Alors, c'est une dialectique très marxiste que j'emploie, mais c'est assez proche, à mon avis, de la réalité. La difficulté, c'est de fédérer ces gens-là derrière, on va dire, éventuellement une organisation syndicale, ou au moins derrière des organisations communes, parce que la grande difficultés aussi qu'ils connaissent, c'est que ce sont des travailleurs isolés essentiellement.
Oui, mais on a commencé à les organiser. La CFDT, elle a par exemple des syndicats de VTC, elle a des syndicats de travailleurs de la communication ou du conseil. Et nous, on se prépare à la rentrée à lancer une grande initiative de plateforme de service à l'égard de ces travailleurs. Parce que ce qui leur est posé, c'est d'abord de créer du collectif. Et ça, le syndicalisme, c'est quand même cet outil du collectif au quotidien. Le deuxième, c'est de créer des droits, notamment des droits à la protection sociale, le respect d'un certain nombre de règles qu'on a concernant les conditions de travail, le paiement, leur rémunération, etc. Puis troisièmement, c'est de créer de la représentation. Et ça n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que, et c'est un sentiment d'isolement profond, on a un patron, c'est pas le patron avec le lien de subordination du contrat de travail, mais enfin on a quand même un donneur d'ordre, et on n'a pas de moyens de peser, y compris par le dialogue social auprès de lui. Donc c'est ces trois enjeux-là auxquels il faut répondre, et ce qu'on est en train de créer, ça répond à ces trois enjeux du service, de la représentation collective, mais aussi du collectif pour débattre un peu de sa situation et prendre sa part pour l'améliorer.
Il y a quelque chose d'assez frustrant quand on suit ça journalistiquement, en tout cas, j'imagine peut-être du côté syndical aussi, c'est d'avoir la sensation de courir derrière une dérégulation qui de toute façon est lancée et qu'on a beaucoup de mal à rattraper quelque part.
Bah, de toute façon, lorsqu'on est syndicaliste aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec être syndicaliste il y a 15 ans ou 20 ans. Toutes les mutations que nous vivons, que parfois nous subissons, sont des mutations extrêmement rapides et qui nécessitent une adaptation permanente. On parle de la mutation du travail, avec le développement de ces formes d'emploi différents, mais on peut parler de la mutation technologique. La digitalisation est en train de bouleverser des métiers, des emplois, mais aussi des secteurs d'activité entiers. Et donc, il faut s'y adapter, il faut y répondre. Et puis, une mutation qui est sans doute plus porteuse d'opportunités, qui est la transition écologique, qui va aussi avoir des conséquences énormes. Et donc, quand on est un syndicaliste aujourd'hui, si on ne s'adapte pas à ça, en réfléchissant sans cesse à ce qu'est la réalité, en ne l'acceptant pas forcément, en se demandant où sont les inégalités, comment on fait en sorte que tout ça se fasse à hauteur de femmes et d'hommes, en ayant le souci de la justice sociale. Et en même temps, dans une capacité à construire des contre-propositions ou des propositions, non pas pour faire croire qu'il n'y aura plus de digitalisation, que la transition écologique n'aura pas d'impact sur les emplois, mais au contraire en disant préparons-le, anticipons-le, c'est monstrueux, je vais être franc, c'est monstrueux. Et donc, en fait, dans une période où tout va plus vite, on a besoin de plus en plus de réfléchir, de se poser et de dialoguer. Et c'est un peu l'inverse qui est fait, en fait. En fait, on a l'impression que tout le monde serait là à course, la tête dans le guidon, qu'il ne faudrait pas se parler parce que c'est de la perte de temps. Et en fait, à faire comme ça, on ne fait que des bêtises.
Vous avez mentionné un fait qui, moi, me heurte toujours, mais qui est important, c'est que le fait que le syndicalisme d'aujourd'hui n'est effectivement plus du tout celui d'avant, ça rejoint l'idée que... il n'y aura plus d'acquis sociaux, quelque part. Il n'y aura plus de nouveaux droits sociaux qui seront gagnés. Il n'y a plus que des défenses de droits, des droits à défendre ou des droits à perdre, en gros. Est-ce qu'il faut faire le deuil de l'idée que, par la négociation, par la discussion, on obtiendra des nouveaux droits et qu'il ne nous reste plus que de l'espace pour défendre ce qu'on a déjà ?
Non, je ne partage pas cette idée qu'on serait qu'en défense. Je crois que ce qui sera plus difficile à obtenir qu'auparavant, c'est un droit qui concernera les millions de travailleurs, quel que soit leur statut, leurs conditions dans ce pays. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, parce que le salariat et le monde du travail, les travailleurs sont beaucoup moins uniforme qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Par contre, des droits tous les jours, on en obtient dans les entreprises. Oui. On méprise toujours ce qu'est le syndicalisme dans sa forme la plus pure. Dans sa forme la plus pure, c'est sur le lieu de travail, dans les entreprises, l'administration. Et là, des milliers de femmes et d'hommes obtiennent des droits individuels ou collectifs. Il y a des droits qui sont obtenus sur l'espace d'expression, par exemple, des salariés sur leur travail. Il y a des choses autour de la complémentaire santé, il y a des choses autour du salaire, etc. Donc ça, c'est sûr. Après, on peut obtenir aussi des droits d'un niveau plus global. Si on reprend ces travailleurs indépendants, pourquoi on n'imposerait pas une protection sociale pour ces travailleurs indépendants financée par les plateformes, notamment lorsque c'est les plateformes qui leur donnent du travail, financées par leur donneur d'ordre? On peut très bien obtenir ces droits-là. Tout est une question de choix, vous savez. Face aux mutations qui donnent le sentiment parfois que tout nous échappe, qu'en fait on n'a plus de maîtrise. Il faut toujours ramener les choses à... Il y a toujours des femmes et des hommes qui décident. Et donc ces femmes et ces hommes, ils ont deux chemins possibles. Ils ont le chemin de la justice sociale, des droits, de la reconnaissance des personnes, des travailleurs, ou ils ont le chemin de l'hyperlibéralisation, chacun se débrouille, et les gagnants gagnent, les perdants perdent, et c'est comme ça. Et donc moi, tant que je serai militant, tant que je serai vivant, je crois, je me battrai pour que le chemin de la justice sociale soit emprunté. Mais ça veut dire que c'est des chemins différents de ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Avant, on était dans notre entreprise, c'était un peu plus sûr. Il y avait des secteurs en forte restructuration, hein, c'était pas très facile. Il y avait des conditions de travail des fois plus rudes dans ces secteurs professionnels qu'elles le sont aujourd'hui, dans ces mêmes secteurs professionnels. Donc tout ça n'est pas, c'est pas une dégradation pour tout le monde. Mais il y a une forme de précarisation un peu et d'incertitude grandissante pour nombre de travailleurs qui rend l'action syndicale beaucoup plus compliquée qu'auparavant. Mais quand on s'engage syndicalement, on s'engage pour réparer et pour contester les injustices sociales. Elles demeurent, c'est le moins qu'on puisse dire, elles demeurent. Donc la question, elle n'est pas est-ce qu'on a besoin de syndicalisme ou pas, c'est comment le syndicalisme doit s'adapter à cette période-là. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement où on sera dans 15 ou 20 ans, et il faut quand même le préparer.
L'un des points d'entrée importants pour nous cette saison pour aborder la question du monde du travail, il concerne le service public et ses satellites. Par exemple, la réforme de la SNCF et la violence avec laquelle elle est ressentie par les salariés, ou encore la question de l'hôpital public et les difficultés traversées notamment par les services d'urgence. On en avait discuté avec Sabrina Ali Benali, médecin urgentiste et autrice.
Si je reprends un peu l'idée que vous développiez, c'est les urgences, c'est la partie immergée, on va dire, de l'iceberg qui montre la dégradation, non pas que des urgences, mais de tout le système de soins français.
C'est exactement ça, auquel se rajoute, en plus de la dégradation du système de soins, la dégradation tout simplement de l'état de notre société, puisqu'on y retrouve aussi les précaires, l'absence d'établissements médico-sociaux avec tout un tas de gens qui n'ont pas strictement affaire aux urgences en tant que telles, mais qui devraient être dans des établissements soit psychiatriques, soit avoir de l'aide médico-sociale, soit des agressions faites aux femmes, etc., et qui ne trouvent pas d'autre refuge que celui-là. Donc les urgences, effectivement, ça dit un petit peu l'état de santé globale de la société, et force est de constater qu'il va mal.
Alors est-ce qu'au-delà de ces difficultés, ces grandes organisations traditionnellement solidaires et fédérées ne sont pas les derniers bastions où l'action collective est encore possible? J'ai posé la question à Laurent Berger.
Je crois qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent se fédérer. Des entreprises, je me déplace tout à l'heure pour aller manifester avec les salariés de Conforama, il y a encore du collectif. Par contre, c'est vrai que les agents de l'hôpital public, ils ont ceci en particulier, qu'ils partagent une condition commune, mais vraiment commune, qu'on soit à tel ou tel endroit, même s'il y a des différences géographiques, mais c'est la même chose. Pour autant, moi ça fait 5 ans que je dis que l'hôpital public est en burn-out. Et pour autant, c'est difficile de créer de la mobilisation collective. Mais ce secteur-là, tout simplement, il est l'illustration que quand la logique budgétaire prend le pas sur le sens, on fait de la catastrophe. Et on fait de la catastrophe avec des salariés, des travailleurs qui s'occupent des personnes. Et donc qui en plus vivent un double choc, des conditions de travail qui sont ultra dégradées. Et donc on fait appel alors à surinvestissement professionnel parce que ce sont des pros et des soignants pour beaucoup d'entre eux. Et puis, on a aussi un conflit intérieur de chacun en disant « mais j'ai pas les moyens de faire correctement mon travail alors que c'est presque une forme de vocation ». Donc là, oui, ça peut s'organiser, mais ça peine quand même, on peine à le faire. Et la SNCF, c'est autre chose, je crois que c'est un secteur qui est soumis à de profondes transformations, mais où le collectif a toujours été très fort. Le syndicalisme a toujours été... C'est plus facile dans une entreprise nationale organisée. Mais du collectif, il s'en passe dans beaucoup d'endroits ailleurs. y compris dans les travailleurs indépendants, on commence à créer des collectifs. Et puis, on peut parler des secteurs des finances, dans les fonctions publiques, on peut parler de l'éducation. Mais on peut parler aussi des salariés de l'aéronautique, des salariés de la grande distribution qui sont encore en capacité de s'organiser. C'est-à-dire que le syndicalisme n'est pas mort, quoi. Il n'est pas mort, mais il est mortel, je le disais déjà, j'ai déjà dit, il est mortel s'il ne se rénove pas.
La SNCF, c'était notamment une manière de parler trans télécom, s'intéresser à ce sujet. Parce qu'il y avait, une manière, quelque part, il y avait quelque chose de très symbolique dans le fait que lorsque le procès France Télécom s'est ouvert cette année, c'était pile au moment où pas mal de voix au sein de la SNCF alertaient sur la hausse du nombre de suicides, potentiellement, notamment sur le lieu de travail. Si on en reste sur cette idée de France Télécom qui restera le symbole de ce que la privatisation à marche forcée peut faire de pire, sans doute, la privatisation d'une ancienne antenne du service public. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons, quelque part, de cet épisode assez noir pour le travail en France ?
France Télécom, c'est le symbole aussi d'une gestion des femmes et des hommes totalement désastreuse et totalement déshumanisée. Et d'ailleurs, la CFDT est partie civile dans le procès parce que c'est pas faute d'avoir alerté, c'était une logique purement économique, purement budgétaire. Et à chaque fois que ces logiques-là prédominent, dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans les entreprises privées, ça fait des désastres. Et aujourd'hui, à la SNCF, vous savez, la CFDT elle vient de lancer une initiative, c'est d'aller mesurer combien de temps on attend au guichet. C'est plusieurs heures. On peut se dire que c'est désastreux pour les clients. C'est désastreux pour les gens qui sont derrière le guichet. Ils le vivent comme une tension et un mal-être au travail extrêmement, extrêmement puissant. Et donc, je crois que la SNCF, elle est en transformation. On a contesté cette ouverture à la concurrence, les conditions dans lesquelles ça se faisait. Mais au-delà de ça, maintenant que c'est là, si en plus elle le fait sans s'occuper des cheminots et des cheminotes dans leur réalité de travail concrète, elle va à la catastrophe de la même manière. Et ça comment on le combat ? On le combat quand les alertes sont prises au sérieux. À France Télécom, à l'époque, toutes les alertes, d'où qu'elles venaient, n'étaient pas prises au sérieux. Là, à la SNCF, il faut prendre les alertes qui sont faites par la CFDT, par d'autres organisations syndicales, extrêmement au sérieux, et se mettre autour de la table en disant, bon, cette restructuration, elle se fait. Est-ce qu'on peut la faire différemment ? Est-ce qu'on peut l'amoindrir ? Est-ce qu'on peut ralentir le rythme ? Et surtout, comment on donne la possibilité aux cheminots de parler, d'avoir la possibilité de s'exprimer sur leur travail ? C'est, moi, je crois que beaucoup se joue sur la qualité du travail, sur la façon dont chacun est respecté au travail. Et là où ça fonctionne bien, c'est là où le dialogue social a permis d'avoir des espaces de parole où chacun peut sincèrement s'exprimer sur ce qu'il vit et avoir une prise pour l'améliorer. Si on ne va pas vers davantage de prise en compte du travail réel à la SNCF, on va vers une forme de catastrophe. Ouais. Et donc, moi, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je n'ai pas envie de dire que ce sera le prochain France Télécom. Ça, c'est une analyse qui serait facile et inexacte. Mais j'ai envie de dire, attention, parce que quand on vit de profondes transformations, c'est aussi là où le travail se dégrade. Et quand le travail se dégrade, que l'entreprise ne fait plus sens pour ceux qui y travaillent, il y a des risques.
Mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de favoriser cette expression ? Est-ce qu'on en prend vraiment le chemin ? Justement, vu la limitation qui est faite, en tout cas l'accès parfois de plus en plus difficile à des instances pour les salariés, je pense aux grands groupes, ce genre de choses.
On a de belles réalisations. On a des endroits, je peux citer Toyota qui est un exemple, où il y a eu un vrai travail de fait sur les coûts des salariés, le fait que les représentants du personnel puissent se saisir de ces paroles pour revendiquer, proposer des améliorations des conditions de travail et de la vie au travail. Mais globalement, le travail est quasiment absent des préoccupations des acteurs. Regardez, on a un ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. On parle d'emploi et formation professionnelle, quasiment jamais de travail. On pousse depuis maintenant des mois le patronat à négocier sur la qualité du travail pour essayer de donner un cadre de négociation dans les branches ou dans les entreprises sur le sujet. Pour l'instant, ça reste lettre morte. Donc oui, c'est la question du travail, elle est absente des préoccupations. Et alors que c'est le sujet qui impacte le plus chacun tous les jours lorsqu'il se rend sur son lieu de travail. Donc on a à évoluer là-dessus. Nous, on a fait un énorme travail avec notre enquête Parlons Travail qui nous a un peu bousculé, hein, parce qu'au début on se disait les salariés vont dire qu'ils sont pas bien au boulot, etc. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit on est plutôt bien. Il reste encore des problématiques physiques, des problématiques psychiques au travail, hein, donc des impacts réels du travail. Mais surtout ils nous ont dit nous on veut avoir le droit à parole, quoi. On veut pouvoir peser sur les choix qui nous concernent. On en a marre, c'est fini le temps où il y avait un ordre qui descendait d'en haut et on l'appliquait et on n'avait pas le droit. C'est plus l'aspiration. L'aspiration, mais d'ailleurs on le voit chez les jeunes, moi j'interviens beaucoup dans un certain nombre d'écoles, chez les jeunes l'aspiration elle est double. Un, du sens, une entreprise qui porte du sens et qui ne détruit pas l'environnement, etc. C'est très fort. Et deux, je veux être respecté et je veux que mon boulot il ait du sens. Et gagner du fric pour gagner du fric, ça ne m'intéresse pas en tant que tel. Ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, je puisse dire ben, je sers à quelque chose et je suis respecté dans mon boulot. Et si ces deux dimensions-là ne sont pas intégrées demain, on aura de plus en plus de mal à ce que les gens adhèrent à un projet collectif qui est celui de l'entreprise.
Au cours de cette saison, nous nous sommes également penchés sur la question très épineuse des accidents du travail grâce au suivi que réalise bénévolement Mathieu Lépine, un enseignant qui, sur un compte Twitter dédié, répertorie au quotidien ces accidents.
Il y a les cas dont on entend parler, qui sont un petit peu médiatisés, et puis il y a tous les autres. Alors, on parle des accidents du travail, mais on pourrait aussi parler des maladies du travail, parce que c'est aussi des burn-out, c'est aussi des dépressions, ça va parfois jusqu'au suicide. Et c'est vrai que si on additionne tout ça, parce que c'est difficile de mener un travail global sur tout ça, parce que ça représente des dizaines de milliers de cas, en fait. Et si on additionne tout ça, on se rend compte que sur une année, en France, les gens qui sont directement morts du travail, il y en a plus d'un millier en réalité. J'estime qu'un sujet comme celui-là n'est pas un fait divers, n'est pas un sujet banal.
J'ai demandé à Laurent Berger quel regard le monde syndical en général et la CFDT en particulier évidemment portaient sur ce sujet, s'il s'agissait ou pas d'une source d'inquiétude.
Ah bah oui, ça nous inquiète de plus en plus. Vous savez, à chaque fois qu'on déresponsabilise l'employeur et que la responsabilité est diffuse, à chaque fois les travailleurs sont en risque. Regardez bien où se passent les accidents du travail. Ils se passent concrètement dans les entreprises de sous-traitance de rang 3, 4 et parfois chez les travailleurs indépendants, mais pas seulement. On regarde dans le secteur, par exemple, du bâtiment, qui a été un secteur assez accidentogène historiquement, qui l'est toujours. C'est rarement, ça peut arriver malheureusement, mais rarement dans les entreprises phares. C'est souvent dans les entreprises sous-traitantes. Et c'est là où nous, on essaie d'agir beaucoup sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous savez, c'est ce qu'on a poussé dans le devoir de vigilance, par exemple. C'était à l'échelle internationale en disant, suite au drame du Rana Plaza, vous ne pouvez pas vous désintéresser lorsque vous êtes une grande enseigne de distribution de la façon dont est produit les produits que vous vendez chez vous. Ça fait partie de vos sous-traitants, vous devez vous y intéresser. Et d'un niveau national, c'est pareil. C'est-à-dire que plus on intéressera les grandes entreprises à la façon dont elles connotent, elles dirigent leur sous-traitance et donc l'impact que ça a les travailleurs, plus elles feront attention. Parce que ce qu'on constate, c'est que sur la question de l'accidentologie au travail, dans beaucoup d'entreprises, ça s'est amélioré. Y compris les entreprises industrielles avec des facteurs de risque, etc. Et là où ça se dégrade, c'est quand on sort de l'entreprise, en fait. Et ça veut dire qu'il faut étendre la responsabilité. On l'a fait sur l'international, on peut très bien le faire d'un niveau national. Mais encore une fois, il faudrait qu'on puisse parler du travail. Et aujourd'hui, au ministère du Travail, on ne parle pas du travail. On parle de l'emploi, de la formation professionnelle, des fois de la tuyauterie des organismes de santé au travail, mais pas de comment on améliore la vie au travail, on responsabilise les entreprises sur la façon dont se vivent les conditions de travail. Et je crois qu'on ne le fait pas tout simplement parce que c'est d'abord un comportement des acteurs avant d'être de la loi. La loi, elle existe, et on pourrait la renforcer, mais elle existe. Mais il faut d'abord créer les conditions du dialogue réel sur le travail. Et les entreprises, elles n'ont pas tellement envie de partager leur pouvoir sur l'organisation du travail, par exemple. Parce que beaucoup de choses ont trait à l'organisation du travail, aux horaires, à la façon dont les choses s'organisent, au matériel qu'on a pour faire le travail, à la façon dont aussi les éléments périphériques sont traités, notamment les questions de transport, les questions de logement, etc. Donc, toutes ces questions-là, nous, on voudrait les aborder. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs pour le faire.
Est-ce qu'il ne manque pas aussi des outils de mesure, on va dire quelque part, de transparence peut-être aussi sur comment les entreprises travaillent ou tout simplement d'outils, parce qu'on pourrait rester sur cette idée d'accident du travail. En discutant avec cet internaute-là qui pointe tout ça, il disait que c'est très compliqué, la collecte d'informations est très compliquée, le fait de le relever d'infos, de savoir quel accident, est-ce que c'est un accident du travail ou pas, est assez compliqué. Est-ce qu'on ne manque pas aussi d'outils du côté justement des représentants des salariés pour porter ces sujets auprès des employeurs et auprès de l'État?
On est d'un niveau microéconomique, on le sait. Quand il y a un accident du travail dans une entreprise, dans un secteur professionnel, on est au courant. D'un niveau macro, c'est plus compliqué, mais enfin, avec les CARSAT, sur les risques maladies professionnelles, accident du travail, on a des éléments. La question, elle est plutôt la question de la prévention.
Oui.
La question de la réparation qui s'opère derrière, mais enfin, si possible, de la prévention. Et moi, ce n'est pas tant un problème de connaissance. Quand vous allez sur un lieu de travail, je fais ça toutes les semaines, rencontrer des équipes, il y a un sujet sur lequel les salariés sont intarissables. C'est leur boulot.
Oui.
Et donc, ils savent. Ils savent les risques, ils savent. Et donc, si on les écoutait un peu plus, on pourrait prévenir davantage. Dans toutes les entreprises où on a progressé sur les conditions de travail et on a fait baisser les accidents du travail, on est parti non pas de quelques ingénieurs dans une salle qui ont réfléchi, on est parti de la réalité concrète. Et souvent, c'est les salariés lui-même qui ont plus en capacité d'adapter ses conditions de travail, son poste de travail à ce qu'est son risque. Et donc, c'est un peu... c'est pas qu'une question... ni statistique, ni mécanique, d'une certaine manière, de trouver la bonne réponse, le bon curseur. C'est presque une question philosophique et politique. Quel dialogue on veut ? Quelle place on veut faire aux travailleurs dans le monde du travail ? Est-ce que c'est un exécutant ? Ce que, finalement, développe un certain nombre de personnes en se disant il y a un lien de subordination, pendant ce moment-là, tu fais ce que je te dis et point barre, moins tu parles. Ou est-ce que c'est une des richesses de l'entreprise, une partie constituante de l'entreprise, et donc il doit avoir... droit avoir voix au chapitre, droit à la parole, droit à peser sur la stratégie de l'entreprise au global, mais aussi sur l'exercice du travail quotidien. Enfin, on appelle ça vocable gouvernance, mais on voit bien que c'est le point de différence avec le gouvernement parfois et avec le patronat, c'est-à-dire est-ce que les salariés, c'est des pions, je caricature un peu, mais des pions qu'on met là où on veut, ou est-ce que ce sont aussi ceux qui doivent avoir droit à la parole et à la décision de l'entreprise. Nous, on défend une forme de codétermination à la française. Plus de représentants, c'est trois niveaux, hein, plus de représentants dans les conseils d'administration des entreprises, des instances représentatives du personnel plus fortes avec du dialogue social réel et sur les vrais sujets, notamment en termes de stratégie d'entreprise, mais aussi de travail. Et puis, les salariés qui ont des possibilités, des mécanismes de prise de parole, de droit d'expression. Et si on va en aller vers ça, je suis sûr qu'y compris sur la question des actions du travail, on en aurait moins.
Est-ce que finalement, l'un des problèmes principaux, c'est que le gouvernement actuel ne s'intéresse pas au travail ? On tourne autour de cette question depuis le début. Tout simplement, ne s'y intéresse pas, en tout cas pas au travail collectif, parce qu'il a bâti une partie de sa stratégie, ce gouvernement, en tout cas le chef de l'État, a bâti une partie de sa stratégie électorale sur cette idée de Startup Nation, d'une nation d'entrepreneurs, comme on nous vendait une nation de propriétaires il y a 40 ans. Est-ce que finalement, le nœud du problème, il n'est pas là ?
Je pense que le nœud du problème, il est que la question du travail est dure à appréhender parce qu'elle n'est pas binaire. Le deuxième élément, c'est qu'on a un gouvernement qui a développé très clairement une logique de l'individu au détriment d'une logique du collectif. Et que le travail, c'est collectif. Même s'il y a des actes individuels, même si on peut être seul au travail, c'est quand même dans un environnement, un écosystème. Et troisièmement, il y a aussi un mythe de travailler à tout prix. Et moi, je le dis, le travail, ça ne vaut que si on s'émancipe, que si c'est enrichissant, etc. Et je ne suis pas en train de dire que le travail est enrichissant que si on fait des professions intellectuelles, etc. Tout un tas de salariés sont extrêmement fiers de leur travail dans des phases des travaux d'exécution ou des travaux manuels. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se sent bien au travail, ça change tout dans sa vie. Et ce gouvernement... Il n'a pas pensé le travail. Il n'a pas du tout pensé le travail. Il a pensé le retour au travail. Le travail à tout prix. Et c'est totalement différent.
Évidemment, nous sommes encore loin d'avoir fait le tour de la question, vous l'aurez compris, très évolutive, du travail, de ses ramifications très intimes dans nos vies, de ses bouleversements, ses disparitions, ses apparitions, tant d'aspects qu'on compte bien creuser lors de la prochaine saison. Merci à Laurent Berger pour cet entretien réalisé par Solène Moulin, préparé par Lauren Bess. Toutes les infos sur les extraits des précédents épisodes de Programme B que vous avez pu entendre à l'instant sont à retrouver dans le texte accompagnant ce podcast et évidemment sur le site de Binge Audio, binge.audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on parlera climat.
Binge.
«
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.